et Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 mai 2026. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens, bien sûr. Votre émission préférée est disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et en réécoute sur notre site radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule en studio, je suis accompagnée d'Aurélie. Salut.
Salut.
Aurélie, aujourd'hui tu as proposé à nos auditeuristes une chanson qui s'appelle The Little Things de Barry Moore qu'on écoutera en toute fin d'émission. De mon côté, je vous propose d'écouter une de mes artistes libanaises préférées, Yasmine Hamdan, et son titre Ya Nas. Avant d'écouter tout ça, on commence comme d'habitude par l'interview du jour. Et Aurélie, c'est à toi, je te passe la parole.
Eh bien bonjour, donc aujourd'hui je suis avec Baptiste Levasseur et Romain Muller, donc tous deux bénévoles à la protection civile de la Somme. Donc bonjour à vous deux.
Bonjour.
Donc on va commencer donc sur des questions sur la protection civile en général. Donc déjà, est-ce que vous savez combien il y a de personnes dans la Somme ?
Oui, alors à la protection civile de la Somme, on est à environ une cinquantaine de bénévoles actifs qui partent en mission sur l'ensemble du département, que ça soit Amiens, Péronne, la côte, etc.
Et est-ce qu'il y a des conditions physiques ou un âge minimal pour pouvoir ou être bénévole à la protection civile ?
Alors sur le plan du recrutement, nous dans la Somme, on demande à avoir des candidats qui ont au minimum 16 ans. Après sur le plan d'autres choses, on ne demande pas forcément de diplôme. Voilà, donc toute personne peut rejoindre la protection civile. Après nous on se charge de notre côté de les former. Et puis sur le reste, conditions physiques, il faut être un minimum... apte à exercer des missions de secours, hein. C'est pas tout repos. On fait des prises en charge, du transport de victimes, donc ça implique à un certain moment de pouvoir supporter des charges, marcher parfois une grande journée sous le soleil, donc il faut avoir certaines conditions quand même. Mais sinon, on n'a pas de conditions de diplôme ou autre pour rentrer chez nous.
Et quelles sont les formations qu'il faut faire pour pouvoir être bénévole ?
Alors en fait, pour assister à un poste de secours, on demande un minimum un PSC, que vous, je pense, connaissez à peu près tous. Donc, premier secours citoyen qui permet en fait de porter assistance en tant que citoyen à quelqu'un, par exemple, dans la rue, dans sa famille, etc. Et ce diplôme permet de connaître les gestes de premier secours, que faire en cas d'une perte de connaissance, que faire en cas d'une hémorragie, d'une obstruction des voies aériennes, etc. Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer ce qu'on appelle le PS1 et le PS2, c'est le premier secours en équipe, de niveau 1 et de niveau 2, qui permettent, en plus de déjà ce qu'on a vu juste avant, donc dans le PSC, prendre en charge les personnes qui ont une urgence vitale, de pouvoir commencer à faire un bilan et de pouvoir travailler avec du matériel. Donc ça, c'est le PS1. Le PSE2 va être toutes les techniques de brancardage, d'immobilisation et d'extraction de la victime. C'est les mêmes techniques, les mêmes diplômes que peuvent passer, par exemple, les sapeurs-pompiers ou d'autres associations agréées de sécurité civile.
Et où est-ce qu'on peut faire donc, ces formations ?
Alors justement, à la protection civile, on propose ces formations, que ce soit pour le grand public, donc le PSC, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et nos bénévoles sont accompagnés aussi avec la protection civile pour passer justement les PSE1 et les PSE2, si naturellement ils sont motivés pour le faire.
Et ça dure combien de temps, une formation ?
Alors la formation PSE1 dure 5 jours et la formation PSE2 dure 4 jours. Et généralement, nous, on le fait sur les week-ends.
Ok. Et donc, comme donc c'est du bénévolat d'être à la protection civile, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a un quota d'heures à respecter, un nombre d'interventions ?
Alors non, on n'impose pas à nos bénévoles un nombre d'heures, c'est vraiment la base du bénévolat. Donc en fonction des disponibilités, et puis de la vie de famille, de la vie en dehors du travail et aussi de son activité professionnelle, on peut se positionner sur des postes de secours ou sur des activités liées à la formation, liées à l'administratif, à la logistique, etc. Mais c'est vraiment sur la base du bénévolat, on n'impose pas un nombre d'heures minimal à faire sur une année.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différents postes de secours que vous faites, enfin, lequel vous utilisez à quel moment ?
Bah écoutez, nous à la protection civile de la Somme, ou en tout cas dans toutes les protections civiles de France, on a la possibilité de faire des dispositifs régionaux de secours assez régulièrement, qui sont catégorisés. Donc on a petite envergure, moyenne envergure et grande envergure. On peut même avoir, si le poste de secours si le dispositif ne nécessite pas un poste de secours, ce qu'on appelle nous un PAPS, un point d'alerte et de premier secours. Ça se fixe vraiment selon une grille de risque qui est établie. Et donc chaque poste de secours va nécessiter un moyen différent. Le PAPS va nécessiter deux intervenants secouristes avec un certain nombre de matériel, comme un dispositif de secours grande envergure va nécessiter plutôt une quarantaine de secouristes avec beaucoup plus de matériel présent. Cette grille de risque, je laisserai mon collègue la détailler ou en tout cas en discuter un petit peu, puisque je ne la connais pas réellement, je ne suis pas trop dans cette branche-là. Mais en tout cas, on a vraiment une diversité. Nous, dans la Somme, on peut faire des dispositifs de secours donc type PAPS, petite envergure et moyenne envergure si on a des renforts, je crois, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. On fait des postes de secours, par exemple sur Amiens, on a la raiderie d'Amiens. On est implanté au Beffroi, à la Maison de la Culture. On peut avoir des activités sportives avec des courses, par exemple, organisées par des lycées, des collèges. On peut avoir, le week-end dernier, par exemple, la Coupe de France de bûcheronnage qui s'est fait à Brie. Nous avons là, le 14 juillet approchant, les différents feux d'artifice, la fête de la musique, etc. Donc, on est de l'activité locale à l'activité sportive avec plus ou moins de personnes et donc plus ou moins de public. Et donc, un poste de secours, comme l'a dit Romain, plus ou moins grand.
Et donc, vous parliez de moyens matériels. C'est quoi un peu les différents moyens matériels que vous avez à la protection civile?
Alors, tout le monde connaît. On a une ambulance pour justement permettre de prendre en charge soit la victime à un point donné avec un poste de secours mobile, soit même l'évacuer dans un centre hospitalier. Nous allons avoir des moyens d'oxygénothérapie, des moyens de mobilisation et tout ce qu'il faut pour justement faire un bilan, faire la première approche de la victime et pouvoir savoir s'il s'agit d'une urgence vitale ou pas et donc du coup d'appeler les secours et de faire la prise en charge jusqu'à un centre hospitalier.
Et est-ce que vous faites des interventions uniquement dans la Somme ou vous pouvez être amené à en faire un peu plus loin dans les Hauts-de-France ou même ailleurs?
Alors en effet, on peut être. L'association est départementalisée, donc ça veut dire que nous, notre rayon d'action, c'est principalement le département. Par contre, la protection civile, elle couvre sur l'ensemble du territoire. Vous l'avez vu d'ailleurs avec les JO, où pas mal de protection civile et pas mal de personnes en bleu et en orange étaient visibles sur les différentes activités des JO. Et effectivement, on peut être amené à intervenir sur l'ensemble du territoire. Nous, on va intervenir sur les régions limitrophes. Mais on peut intervenir sur plein d'activités. Mon collègue qui est avec moi a été retenu pour les vieilles charrues. Donc vous voyez qu'on a un rayon d'action qui peut être assez, assez vaste.
Et donc maintenant, on va passer sur des questions un petit peu plus personnelles. Donc vous deux, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir bénévole à la protection civile?
Moi, ce qui m'a motivé dans un premier temps, c'est que j'avais beaucoup de temps libre. Pour la petite histoire, je suis en fac de droit, en L1 droit. J'avais raté ma première année, donc ma deuxième année, j'avais beaucoup, beaucoup de temps libre vu que j'avais des matières validées. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de ce temps libre, à part le passer chez moi et rien faire? Je me suis dit, la protection civile, pourquoi pas, une association qui a du sens finalement, donner de son temps pour les autres et puis avoir des connaissances supplémentaires, parce que mine de rien, PSE1, PSE2, ça permet d'avoir des connaissances, de les valoriser ailleurs. Puis c'est très, très sympa finalement, ça fait bientôt un an à la Protec, comme on l'appelle entre nous. Et je suis pas du tout déçu de mon engagement, j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc parfait.
Alors moi, j'ai malheureusement eu un accident de la voie publique et les personnes qui m'avaient pris en charge, je trouvais que c'était assez admirable ce qu'ils ont fait. Je me rappelle d'un pompier qui était resté en maintien de tête derrière moi pendant 45 minutes sur le sol gelé, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et quelques temps après, ma société m'a offert le PSC. Ma société a offert le PSC à l'ensemble des salariés. Ça m'a vachement plu. Et comme c'était la protection civile qui m'avait fait la formation, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà comment j'y suis rentré. Et depuis 3 ans bientôt, c'est toujours un plaisir de participer à cette aventure.
Et est-ce que vous avez une intervention qui a été plus marquante que les autres?
Alors personnellement, moi j'en ai deux. Puisque pour la petite histoire encore, oui, il y a beaucoup de petites histoires avec moi. Je suis en double affectation avec la protection civile du 95. Dans le 95, on faisait beaucoup de gardes SAMU à une époque. Et durant l'une de ces gardes SAMU, j'ai eu l'occasion avec mon équipe d'intervenir sur une personne qui s'était arraché le doigt. Donc, marquante beaucoup, mais ça va, on a gardé notre sang-froid, on a réussi à apporter secours à la victime et à la transporter jusqu'au centre SOS Main le plus proche. Donc ça, c'était très marquant. Puis deuxième intervention, cette fois-ci, dans le 80, avec mon collègue juste à côté. On a eu l'occasion d'être appelé par les sapeurs-pompiers pour effectuer une intervention à domicile pour une personne qui était tombée au sol. Et arrivée sur place, on était les premiers intervenants, donc on a pu faire les premiers gestes. Et qui ont été secondés après par les sapeurs-pompiers, qui s'est suivi par un transport vers le centre hospitalier. Une intervention très sympathique, n'est peut-être pas le terme, mais en tout cas très marquante pour nos équipes.
Et donc justement, vous dites que vous êtes appelé par les pompiers. Est-ce que du coup, il y a forcément toujours une possibilité de vous appeler ? Il y a toujours quelqu'un qui est disponible ? Même que ce soit la nuit, le matin ou...
Alors, on n'a pas d'astreinte à proprement parler. Par contre, en fait, on est toujours en lien avec la préfecture qui peuvent nous déclencher en cas de besoin. Si on a, par exemple, une explosion sur Amiens-Nord dans un des sites industriels, on peut être en mesure de monter ce qu'on appelle un centre d'accueil des impliqués où on va pouvoir venir avec l'appui naturellement des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre et de tous les services qui concourent à ce genre de manœuvre, venir porter main forte. Justement. Et oui, effectivement, on peut être appelé en fonction des disponibilités de chacun à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Ok. Et donc du coup, vous l'avez dit, vous voyez parfois des images un petit peu choquantes. Donc comment vous faites pour gérer ça psychologiquement ?
Alors en fait, dans l'organisation d'un poste de secours, on a une sorte de hiérarchie, si on veut appeler ça comme ça. Et cette hiérarchie, en plus de gérer toute la partie logistique, la partie pratique, doit tenir aussi compte de cette partie psychologique et bien veiller à ce que les équipiers se sentent bien en intervention. Il peut arriver qu'une intervention qui peut, a priori, ne pas sembler choquante, être choquante pour une personne. Et du coup, on a des systèmes, on a beaucoup de communication justement pour pouvoir échanger là-dessus et pour pouvoir prendre en charge une détresse psychologique chez un bénévole. Après, on peut également inviter le bénévole, s'il est OK, à se rendre dans un centre d'aide psychologique pour être pris en charge par des professionnels si besoin.
Et comment vous arrivez du coup à mêler votre vie professionnelle, votre vie personnelle et aussi le fait de faire du bénévolat à la protection civile ?
Alors moi, personnellement, du coup, vu que j'avais beaucoup de temps libre, je m'inscrivais beaucoup sur les postes où j'avais rien à faire. Ce qui était quand même, ce qui a coupé pas mal de temps l'année dernière. Puis après, vie personnelle, c'est vrai que on voit un peu moins les parents. Enfin, moi, je sais que du coup, mes parents sont pas du tout sur Amiens. On voit un peu moins les parents, mais ça veut rien dire. On les voit toujours. Puis après, ça peut permettre de faire de belles rencontres aussi. Personnellement, le renfort initial qu'on avait fait dans le Val d'Oise m'a permis de rencontrer aujourd'hui la personne qui partage ma vie. Donc, ça allie beaucoup la vie personnelle aussi. Et puis voilà, non, il faut s'engager, mais il faut aussi faire attention à soi, prendre le temps pour soi, le temps pour se retrouver en famille. Et puis, dès qu'on arrive à faire ça, c'est parti, quoi.
Après, effectivement, c'est une passion. Donc, il y a le travail qui prend le temps, mais c'est comme tout. Il y a des gens qui aiment faire du sport, des gens qui aiment aller au cinéma, des gens qui aiment aller faire des longues balades dans les champs, à la mer, etc. Là, c'est une passion. Et du coup, effectivement, ça prend du temps. Mais comme l'a dit mon collègue, généralement, ça apporte quand même beaucoup de positif.
Super. Donc, on va passer sur des questions peut-être un petit peu plus larges. Donc, est-ce qu'au sein de la protection civile, il y a d'autres actions que du secourisme ?
Oui, bien sûr. On fait de l'assistance aux personnes. On fait aussi de la formation, comme on l'a dit en début d'interview, soit de la formation citoyenne, soit de la formation plus professionnalisante avec le PSE1, PSE2. Depuis cette année, à la protection civile de la Somme, nous sommes lancés dans une nouvelle aventure, c'est le soutien aux populations, notamment avec les maraudes, lors du plan grand froid qu'il y a eu en début d'année et fin d'année précédente, où on vient porter assistance aux personnes sans abri ou en tout cas sans domicile fixe. Et donc, c'est des actions qui ont fortement plu nos bénévoles, qui se sont énormément investis, et je les remercie énormément pour tout leur travail. Et d'autres activités sont en cours d'étude, notamment, vous l'avez vu, avec les inondations qu'il peut y avoir sur certains départements proches de chez nous. On intervient sur le soutien aux populations, l'action de secours et les formations.
Et comment on peut vous contacter pour si jamais un événement est organisé pour faire appel à la protection civile ?
Alors en fait, il y a un magnifique site internet où il y a toutes les informations. Vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone et un site pour pouvoir enregistrer votre demande de poste de secours. Et naturellement, vous serez rappelé dans les plus brefs délais pour pouvoir convenir d'un échange par rapport à cet événement.
Ok, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Et merci à vous.
Pas de soucis.
الناس دلوني درب السنة وينا أشوف لي مرقى من بير الهوالة من صد مظنوني واخلى بلادينا أجاوب الورقة من ديجة البالة يا ناس دلوني درب السنة وينا أشوف لي مرقة من بير الهوالة عزهي عيوني تبكي على عينا بشمع زرقا بالحب قتالة يا وي مزيوني بالطول والزينة يا ناس دلوني درب السنة وينا أشوف
Vous venez d'écouter Yanas de Yasmine Hamdan. Pour terminer cette émission, voici vos brèves et idées de sortie pour les prochains jours. D'abord, ce soir, au Charleston, il y a un concert gratuit à 20h. C'est Nage et Somsouk, deux artistes amiénois et amiénoises, qu'on suit de près à Radio Campus Amiens. Ils et elles monteront sur scène à partir de 20h. C'est une soirée intime et pour promouvoir les artistes locaux, donc c'est à ne pas manquer. Ensuite, dans le cadre de la Nuit européenne des musées, la maison Jules Verne vous prévoit ce samedi 23 mai de 19h à minuit l'ouverture de ses portes. L'hôtel particulier du 19e siècle, donc là où a habité Jules Verne à la fin de sa vie, vous ouvre ses portes pour une découverte nocturne de l'univers de l'écrivain, ponctué d'un marathon de lecture de sa correspondance portée par des lecteurs se relayant sans interruption. Sur réservation, les places sont limitées, vous pouvez directement appeler la maison Jules Verne aujourd'hui ou demain pour voir s'il reste des places. Toujours le 23 mai, le FRAC Picardie propose une nuit, dans le cadre toujours de la Nuit européenne des musées, de 16h à 22h, propose un peu une journée spéciale autour du dessin contemporain. Lecture, atelier participatif, battle de dessin en musique et DJ set pour terminer la soirée. Vous allez pouvoir rencontrer la comédienne Marie Vial, c'est en partenariat évidemment avec la Comédie de Picardie, et vous allez pouvoir danser sur un DJ set. C'est une entrée libre, sans réservation, et donc c'est gratuit. Au CIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, encore une fois ce samedi 23 mai, et à 18h, vous pouvez participer à l'invasion nocturne. En fait, c'est un loup-garou revisité. C'est un atelier d'initiation qui vous plonge dans le Amiens de 1597, entre rumeurs d'espions, alliances secrètes et débats publics. Vous allez pouvoir élucider des meurtres, faire du bluff et prendre des décisions collectives. C'est sur réservation. Appelez vite le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et enfin, le festival Folk and Trad revient à Corbie les 23 et 24 mai 2026 pour sa 7e édition. Ça se passera donc dans Corbie, avec plein de lieux, notamment le camping municipal, mais aussi au théâtre Les Docks. Samedi, c'est musique au camping à 14h30 et c'est gratuit. Il y a des ateliers d'initiation aux danses folk à 16h et encore une fois, c'est gratuit. Dimanche, pareil, je vous propose que ce qui est gratuit, animation au kiosque à 11h et vous pouvez même faire un repas partagé à 13h30. Donc, les balles, c'est payant, c'est le soir. Il y a encore des places que pour le dimanche soir. Et le samedi, malheureusement, un peu la tête d'affiche, Rémi Geoffroy, qui est un accordéoniste très connu, est déjà très occupé vu qu'il n'y a plus de place. Mais par contre, le dimanche, vous allez pouvoir voir le groupe breton qui s'appelle Ken Dirvi, j'espère que je ne l'ai pas mal prononcé, le dimanche, et vous pouvez réserver vos places. Voilà, c'est déjà la fin d'InfoClub Sandwich. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi, même si c'est férié, pour une nouvelle émission sur Radio Campus Amiens. Et comme d'habitude, on se quitte en musique. À lundi.
These words to close up the wound, they're just drowning you. I couldn't face up to the small fact that we're both now out of tune. And breathe in, I'm not here for you, there's no room for two. Getting your friends mixed up with your enemies when you've seen all the proof. You're tripping over diamonds in the rough. You're tripping over diamonds in the rough. Breathe in now, letting go the little things we never know. It's fading now, left behind the little things we lost in time. So profound, you've gone underground, willing to do anything to address all the venom and all the doubts. So breathe out, cause you've seen this part, it's not a brand new start. Keeping your door down deep so your enemies can't close down the heart. You're tripping over diamonds in the rough. You're tripping over diamonds.